Alors Philippe l'a dit, je travaille un jour férié. Et alors, vous le savez, nous sommes le 1er mai, un dimanche, et devinez quel va être le sujet de notre prédication ce matin ? Le travail. Alors peut-être vous allez me dire, oui, ben Fred, t'es gentil, le travail ça me concerne que de loin, parce que je suis encore peut-être lycéen, étudiant, ou peut-être je suis en période de transition, ou bien retraité, ou bien à la recherche d'un emploi, alors parler du travail un dimanche matin, bon, le travail on en parle toute la semaine, on entend à la radio, et puis on est le 1er mai, quand même Fred, tu pourrais changer un peu de sujet. Alors je voulais juste demander un petit peu de patience, à mon égard, et donner juste une petite chance avec ce texte que je vous propose à notre méditation, pour en retirer des éléments qui, vous allez voir, concernent le travail, mais va bien au-delà. Le texte que nous allons méditer se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 3. Évangile de Luc, au chapitre 3, Jean-Baptiste a commencé son ministère dans le désert. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est ce prophète un peu étrange, qui se nourrit de miel, de sauterelles et qui se vêtit d'une peau de bête, tout simplement. Mais pour autant, ce n'est pas son apparat, ce n'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il mange qui attire les foules, mais c'est ce qu'il dit, ce qu'il annonce, le pardon. Évangile de Luc au chapitre 3, verset 7. Jean s'adresse donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême. Vipère, vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Alors vous allez me dire, ça commence mal. Je n'ai pas de message à vous faire passer à travers ce mot vipère. Produisez donc des fruits dignes du changement radical. Et ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant, déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Parole difficile, n'est-ce pas ? Alors je ne m'attarderai pas forcément sur le mot vipère et sur le jugement à venir, mais sur le verset 8. Produisez donc des fruits dignes du changement radical. Mais poursuivons notre lecture. Les foules l'interrogent donc. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Il leur répondait que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Alors des collecteurs de taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient. « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort. Et contentez-vous de votre solde. » Amen. Le ministère de Jean-Baptiste commence dans un désert, où viennent à lui des foules. Ils entendent ce message du pardon des péchés, ils veulent se faire baptiser, alors il leur a dit, changez de chemin. Changement radical de chemin. Parce qu'il dit, en fond, pour recevoir le pardon de Dieu, il n'y a pas de raccourci, pas de déviation, simplement un demi-tour complet. Demi-tour complet pour recevoir le pardon des péchés. Et c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai des enfants, et quand je leur offre quelque chose, c'est rare qu'ils s'en aillent dans l'autre sens. Ils vont plutôt se retourner vers moi pour recevoir ce cadeau. Et Jean-Baptiste dit, c'est exactement la même chose. Au lieu de continuer sur ton chemin, tu changes de direction et tu te tournes vers Dieu pour recevoir son pardon. Alors, c'est Jean-Baptiste, vous savez, C'est un personnage, Jean-Baptiste. Il parle de vipère, de hache qui est prêt à couper tout arbre qui ne porte pas de fruits. Bon, c'est une réalité. Il les met en garde. Mais il les met pas en garde contre un jugement qui va arriver fatalement sur chacune et sur chacun. Mais il leur dit, mais attention, il est une solution. Faites demi-tour, les amis. Faites demi-tour. Et ce demi-tour, leur dit-il, doit se voir. Il doit se voir. Produisez des fruits dignes du changement radical. La rencontre avec Dieu, ça doit changer quelque chose. Tout. Tout changer dans notre vie. Dans nos relations au travail. Dans les petites choses. Lorsque je fais des courses, que la caissière me donne plus de monnaie. Là aussi, ma rencontre avec Dieu doit changer. Dans mes relations avec mes enfants, mes parents. La rencontre avec Dieu doit se voir. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien », mais ça doit se voir. Pourquoi ? L'enjeu n'est pas simplement personnel. Pas simplement de s'assurer que moi, je suis sauvé, là, 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 tout seul, tranquille sur mon chemin. Mais parce qu'on est entouré de personnes qui ont besoin aussi de ce pardon de Dieu. Alors, ce changement radical doit se voir, dit Jean-Baptiste. Produisez des fruits dignes du changement radical. Alors, vous allez me dire, comme cette foule, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Tu me dis de produire des fruits, c'est gentil Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Et c'est à partir de là que je voudrais commencer notre réflexion autour de ce terme de porter ou de produire du fruit. Et comme nous sommes le 1er mai, nous n'allons pas parler d'arbres fruitiers, mais de muguets. Vous savez ce petit bouquet de fleurs qu'on s'offre avec ces petites clochettes. En réalité, nous sommes invités à produire des petites clochettes dans notre vie. Et la première est simple, c'est le partage du surplus. Remarquez que d'abord, les personnes qui sont intéressées ou interpellées, c'est la foule. On n'est pas encore dans les conditions de travail, là, ou dans les travailleurs qui interrogent Jean-Baptiste sur leur travail. Mais c'est une foule qui demande « Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Jean-Baptiste ?» Et la réponse est simple. Pas de grands rites, pas de grandes litanies religieuses, pas même de grands miracles, de grandes manifestations de puissance. Un petit mot. Partage. Partage ce que tu as. Tu as deux tuniques, alors partage-le. Tu as un peu plus de nourriture ce midi ou ce soir, alors partage. Partager. Parce qu'en amour, me semble-t-il, si on dit vouloir aimer son prochain, il faut être pratiquant. Je ne sais pas votre expérience de l'amour, mais dire simplement à quelqu'un que vous l'aimez sans qu'il ne le voit, parfois difficile. Se comporter en prochain de l'autre, tout simplement, première clochette, être le prochain de celui ou de celle que je rencontre sur mon chemin. Peu importe son origine, son niveau social, même sa religion. Partager est un fruit de ce changement radical. Et Jésus enseignera la même chose lorsqu'il dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Matthieu 25. À l'école, au lycée, dans nos familles, au travail, avoir cette approche non égoïste. Penser à regarder autour de soi, à partager le besoin le plus profond de celui qui nous entoure. Voilà la première clochette que nous sommes appelés à produire. Hier, nous étions à une grande rencontre avec Jean-Marc et nous avons été touchés c'était dans une église de l'Armée du Salut. Nous avons été très touchés par la solidarité produite par cette église, ces vestiaires de vêtements et ce partage de nourriture. Mais tout simplement fait, pas d'éloquence, pas de grandes choses, mais simplement partagé. Mes chers amis, je voudrais juste faire une petite remarque sur ce partage. Il ne s'agit pas de faire des bonnes actions les unes après les autres. Il ne s'agit pas d'agir parce qu'il le faut, mais partager un tout petit peu de ce que nous avons reçu. Partager parce que nous avons déjà tout reçu de Dieu. Notre attitude de cœur n'est pas faire les choses parce qu'il faut les faire, parce que je veux être un bon chrétien. Mais c'est parce que quand je regarde à Dieu, quand je vois tout ce qu'il m'a donné, et que je suis reconnaissant, si je vois quelqu'un qui est dénuement complet, que puis-je faire? Si ce n'est pas reconnaissance vis-à-vis de Dieu, et par amour pour lui, lui donner un tout petit peu de ce que j'ai. Il ne s'agit pas de faire les choses pour faire. Deuxième clochette, et là on arrive peut-être dans les conditions de travail. Deuxième clochette, l'intégrité. Vous allez me dire, on en a déjà parlé. L'intégrité. Alors pour comprendre ce que Jean-Baptiste dit à ses collecteurs d'impôts qui viennent le voir, il faut se mettre un peu en contexte. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est pas facile. Hein. Pas facile de se mettre dans ce contexte-là. Notre feuille d'impôt est pré-remplie. On la remplit sur Internet et moi, j'ai pas vu encore de collecteur d'impôts frapper à la maison. Peut-être un jour, ça arrivera. Hein. Mais j'en ai pas encore vu. Mais à l'époque, collecteur d'impôts, c'était un métier. C'était une délégation d'un service public que l'on recevait. Ou proprement dit, qu'on louait. On louait la possibilité de collecter les impôts pour Rome. Il fallait donc rembourser la charge à Rome. Il fallait collecter l'impôt que Rome demandait. Et puis, il y avait une troisième partie qui était laissée à la liberté du collecteur d'impôts. Il pouvait faire sa marge commerciale, si on veut, sur les impôts. Et il y avait tout un tas de taxes. En France, on en a très peu, n'est-ce pas? Il y avait des taxes directes et des taxes indirectes aussi. Alors, les collecteurs d'impôts avaient beaucoup de travail. Et beaucoup aussi l'occasion d'arrondir un tout petit peu les fins de mois. Difficile, n'est-ce pas? Alors, les risques d'abus étaient bien nombreux et très tentants pour un collecteur d'impôts. Parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité, l'agrément. Il a même peut-être des soldats romains qui l'entourent. Alors, bon, refuser de payer son impôt, assez difficile. À tel point que ces collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs, des meurtriers par la communauté juive à l'époque. Et avoir un collecteur d'impôts dans sa maison, toute votre maison a été impure. C'était la catastrophe. Mais Dieu s'intéresse aussi à des gens comme ça. D'ailleurs, l'apôtre Matthieu n'était-il pas un collecteur d'impôts avant sa rencontre avec Dieu? Ces gens ne sont pas très en vue, mais Dieu s'intéresse aussi à eux. Alors, lorsqu'il demande à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire en nous en tant que collecteurs d'impôts? Tu connais notre réalité? On doit rembourser notre charge? On a les impôts de Rome à collecter? Alors c'est vrai, on a un petit peu de marge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il lui répond simplement, soyez intègres, les amis. Soyez intègres. Pas d'extorsion de fonds. Pas de petits pots de vin. Pas de surtaxe, pas de pression, pas d'entourloupe, pas de phobie administrative, pas de compte à Panama. Soyez intègre. Soyez intègre dans ce que vous faites. Et c'est vrai, c'est pas toujours facile d'être intègre au travail. Pas toujours facile d'être honnête lorsqu'on a un tout petit peu de pouvoir ou des capacités, des facilités à faire les choses. Je me souviens j'ai un ami qui est vendeur, enfin commercial. Je sais qu'il y a des commerciaux dans l'église, mais un commercial qui avait l'art et la manière de vendre tout à n'importe qui. Et il me vantait sa capacité à vendre même du vin à des personnes qui n'avaient jamais bu de vin et qui n'en buvaient jamais. Surtout quand c'était des personnes âgées. C'était facile d'abuser des personnes âgées. Mais ce qui était intéressant pour lui, c'était qu'il gagnait une prime. Et à force de prime, peut-être une voiture de fonction. Et à force de voiture de fonction, bon, je vous en passe. Alors ça, c'est les grandes choses. Mais il y a aussi parfois les petites choses au travail. Je me souviens d'un job d'été où je travaillais pour un centre d'appel, pour un opérateur téléphonique. Et nous recevions assez régulièrement des plaintes de clients qui se retrouvaient abonnés malgré eux. Parce que le gentil commercial qui était venu pour leur vendre une encyclopédie avait placé juste en dessous un contrat d'abonnement avec un papier carbone. Ce qui leur permettait de faire double jeu, double prime à chaque fois. Double prime. Alors vous allez me dire, non, mais ça, je ne le fais pas. Mais il est des moments au travail, dans nos conditions de travail, où il est difficile d'être honnête, d'être intègre. Et c'est même une difficulté pour les recruteurs, l'intégrité. Parce qu'il est difficile de l'évaluer. J'ai lu un article où il disait qu'ils avaient tenté des petites astuces pour embaucher une caissière. Ils laissaient un billet de 20 euros par terre et ils essayaient de voir la réaction de la caissière. Ils ont essayé le détecteur de mensonges, mais c'est un poil illégal. Et ils ont essayé des tests pour évaluer un tout petit peu les valeurs, l'éthique de chacune et chacun des personnes. Mais la difficulté dans ces cas-là, c'est que vous pouvez dire tout et n'importe quoi dans ce test. Et même si ce test est à votre insu, ça ne veut pas forcément dire que vous avez ces valeurs d'intégrité, d'honnêteté, que vous allez les mettre en pratique. C'est une vraie difficulté pour un recruteur que d'évaluer l'intégrité. Alors ça, c'était une partie de l'article. Mais je voudrais vous lire un tout petit extrait de la fin, que je trouve absolument exquis, en comparaison avec la lecture que Jean-Baptiste nous invite à avoir du changement radical. Le petit paragraphe dit « Ne soyons pas angéliques ». Paradoxalement, dit l'auteur, qui est responsable d'une grande entreprise, « aucune entreprise ne voudrait d'une personne excessivement intègre, car elle serait peu adaptable et difficile à gérer. Il existe en effet une base naturelle et sociale au manque d'intégrité. Par exemple, mentir est un comportement social utile. On apprend tous à mentir, par obligation et par empathie, afin de ne pas blesser l'autre. Depuis son origine, elle n'a pas tout à fait tort, l'homme s'est évertué à élaborer des stratégies pour vaincre ses ennemis, développer ses richesses et dominer le monde. C'est donc tout naturellement qu'il peut être amené à faire preuve de ruse, à ses fins personnelles, seul ou en groupe. C'est sa conscience personnelle, sa morale et la volonté de respecter et de servir les autres qui vont l'en préserver. Et charge à l'entreprise et à ses dirigeants de montrer le bon exemple. C'est tout à fait pertinent. Oui, ne soyons pas angéliques, c'est pas parce qu'on est chrétien que ça sera plus facile d'être intègre. Mais c'est le fruit de ce qui se passe à l'intérieur. L'esprit qui produit en nous ce que ce changement radical a fait dans nos vies. Troisième clochette. Pas d'abus d'autorité ou de pouvoir, mais le contentement. Le contentement. Arrivent des soldats. Alors, s'il y avait des personnes qui n'étaient pas appréciées par le peuple, c'est bien les soldats romains. Eux aussi posent cette question, assez simple. Que devons-nous faire? Une réponse, en trois parties. Deux négatives et l'autre positive. On ira assez vite sur les négatives, puisqu'elle est simple. N'abuse pas de ton autorité. Toi, soldat qui a l'arme, qui a le pistolet, qui a que sais-je, qui a même la capacité, l'autorité morale sur certains. Tu es chef d'une équipe, dirigeant. N'en abuse pas. Ne fais pas violence physique ou même morale. Agis avec droiture dans ce que tu vis au travail. Et c'est pas facile. Agir avec droiture. Parce qu'on est confronté à des situations de travail où on est parfois victime d'injustice. Et la tentation est parfois de répondre par l'injustice. Ah, tu m'as fait ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Alors ça vaut dans les situations de travail, mais ça peut valoir aussi dans nos familles, dans notre Église. N'abusons pas de notre autorité, nous dit Jean-Baptiste. Et puis la troisième exhortation sur laquelle je voudrais rester un tout petit peu plus. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous. Alors là, on est quand même bien loin des discours qu'on entend parfois. Toujours plus. Gagner plus. Non, travailler plus pour gagner plus. Agir pour plus de puissance, de richesse, de pouvoir. Même dans l'Église. Toujours plus, toujours plus. Au niveau matériel, j'entends. Et que dit Jean-Baptiste ? Contente-toi de ce que tu as. Simplement, contente-toi de ta solde. Et c'est vrai que c'est pas un contexte facile dans lequel nous évoluons. Je ne connais pas toutes les situations dans lesquelles vous vivez. Peut-être avez-vous peu, peut-être avez-vous beaucoup. Et du coup, se contenter de peu peut être difficile à entendre si on s'arrêtait simplement à cette exhortation. Mais le contentement n'est pas un fruit sans racine. Tout à l'heure, Philippe a évoqué un verset de Philippiens. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Voilà un verset qui est super à entendre. Positif. Vendeur, hein, plus vendeur que n'abuse pas de ton autorité, sois honnête. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ouah, ça remet en route, ça. Hein. Mais quel est ce tout? Je peux tout, dit Paul. Dans ma famille, dans mon travail, oh, je peux tout. Et on l'entend. Je peux tout. Alors lisons un tout petit peu les versets qui précèdent ce verset. Et ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Il est important de lire un verset biblique dans le contexte dans lequel il est, pour éviter les travers. Voici ce que dit Paul, Philippiens 4, versets 11 jusqu'à 13. « J'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. » C'est le secret que j'ai appris. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Et le verset 13, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Le tout ici concerne le contentement. Être capable. J'ai appris, dit Paul, c'est un apprentissage d'être content avec ce que l'on a. Et on n'en est pas arrivé encore. Personnellement, je n'y suis pas encore tout à fait arrivé. Être content de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas. Alors c'est une devise un peu étonnante, un peu étrange, si elle est sortie de son contexte. Mais qu'est-ce que c'est que le contentement ? Si ce n'est la paix d'un cœur confiant, d'un cœur qui sait que celui qui revêt les lys, que celui qui nourrit les oiseaux, qui sait ce que nous avons besoin, et celui qui nous aime, qui prend soin de nous. Je peux vivre toutes ces circonstances, nous dit Paul, parce que je sais que Dieu me tient dans sa main. Je veux vivre dans la confiance d'être dans ses mains. Aussi, il nous exhorte, l'apôtre Paul, toujours en Philippiens 4, encore un tout petit peu avant ce passage, à ne se mettre en souci pour rien, mais en toute chose, exposer ses besoins à Dieu. En adressant des prières et des requêtes, et en disant notre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 8. Le contentement est le fruit que la paix que Dieu donne à nos cœurs permet. Et en réalité, être content de ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas, dans notre travail, dans notre famille, dans nos relations à l'autre, change tout. Et en réalité, c'est la clé même, c'est la clochette principale. Parce que si je suis content de ce que j'ai, si je suis dans la confiance, je ne sais pas, j'ai pas tout aujourd'hui, j'ai pas assez pour vivre, mais je suis confiant que Dieu va m'aider. Peut-être avec un frère ou une sœur qui, lui, est content et qui a du surplus, il va pouvoir me nourrir, m'aider. Mais si je suis content de ce que j'ai ou ce que j'ai pas, alors je serai moins tenté par la malhonnêteté, par le détournement de fonds. Je serai plus à même de partager ce que j'ai si je suis content. Pour conclure, peut-être vous allez me dire, mais moi je suis ni collecteur d'impôts, ni soldat, etc. Mais comme je vous disais au départ, il me semble que la question de l'honnêteté, l'intégrité, le refus d'abuser de son autorité, le contentement, dépasse bien au-delà du milieu du travail. Il concerne nos relations de couple, nos familles, nos relations avec les copines et copains, au lycée, à la fac. Rencontrer Dieu, ça change tout. Et cela doit se voir. Pas seulement pour vous, mais parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin de voir des petits grains de sel, des petites lumières. Et ces principes valent aussi dans notre service en tant que chrétien dans le cadre de l'Église. Se contenter du service que je fais. Je suis toujours fasciné par les petits services fidèles qui se font mais qui ne se voient pas du tout. Et je ne voudrais pas citer de nom, mais je trouve ça très, très formidable. Il y a l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir. Chers conseillers, chers responsables, chers toutes et tous, n'abusons pas de l'autorité. Et chers moi-même, n'abusons pas de l'autorité ou même du pouvoir qu'on peut avoir sur les uns ou sur les autres. Mais contentons-nous. Soyons contents de là où Dieu nous a placés. Car c'est lui qui nous y a placés, c'est lui qui nous tient dans les mains, dans ses mains. Et si nous échouons, ce qui arrive, le demi-tour complet est toujours possible. La repentance, mot technique que l'on évite parfois dans nos traductions bibliques, est toujours un chemin possible. Et le Seigneur nous rencontre ce matin. Peut-être veut vous rencontrer pour la première fois ou tout à nouveau et vous inviter à cheminer avec lui. Dans l'assurance que c'est lui qui produit le vouloir, le faire, qui produit ses fruits au sein de vous. Dans la confiance que c'est lui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et enfin, dans le contentement que c'est Dieu qui nous fortifie en toutes circonstances. Que nous ayons beaucoup, peu ou rien du tout, le Seigneur est présent au milieu de nous. Amen.